20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous. Coup de projecteur ce soir sur l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo qui célèbre Mozart en ce moment, le temps d'un festival. Un orchestre que vous retrouverez également dimanche soir sur notre antenne à l'occasion de concerts dirigés par Kazuki Yamada. Alors Kazuki Yamada sera justement à notre micro tout à l'heure en compagnie de Didier de Cotigny, son délégué artistique de l'OPMC. Ils nous éclaireront sur l'actualité de l'orchestre et ses perspectives. Le temps de notre petit panorama quotidien de l'actualité musicale. C'est la basse Alexander Roslavets qui finalement chantera le rôle-titre de Boris Godounov de Mussorgsky dans la mise en scène d'Olivier Py, présentée du 28 février au 7 mars au Théâtre des Champs-Élysées. Il remplacera donc Mathias Goerne, initialement prévu. Alexander Roslavets avait déjà fait sensation dans cette production lors de sa création à Toulouse en novembre dernier. Création que nous avions d'ailleurs évoquée dans le journal du classique avec Olivier Py. C'est une magnifique production que je vous invite vivement à découvrir ces prochains jours au Théâtre des Champs-Élysées. À peine nommé chef principal de l'Orchestre Philharmonique de Nice, il y a quelques semaines à peine, Lionel Bringuier se voit confier un nouveau poste. Il sera en effet le prochain directeur musical de l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège, à compter de la saison 25-26. Il succédera au chef hongrois Gergely Madarash pour un mandat initial de 4 ans. Philippe Gault vous en dit plus dans son article publié sur le site et l'application de Radio Classique. Les musiciens des arts florissants, les jeunes chanteurs du Jardin des Voix, mais aussi les danseurs de la compagnie Kefig seront à l'Opéra de Massy samedi soir et dimanche pour deux représentations de l'opéra The Fairy Queen d'André Purcell. Une toute nouvelle production du chef-d'œuvre de Purcell, placée sous le signe de la jeunesse et de l'inventivité, sous la direction de Paul Agnew et avec la complicité du chorégraphe Mourad Merzouki, qui vient de l'univers de la danse urbaine, à qui l'on doit notamment ce formidable spectacle des quatre saisons de Vivaldi, créé l'année dernière avec Julien Chauvin et le concert de la Loge. Mourad Merzouki, qui fait ici ses débuts dans le monde de l'opéra. Avec lui, danseurs, musiciens et chanteurs dialogueront, se mêleront pour créer un spectacle total autour de cette fable féerique et drôle, inspirée du songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Sing, sing avec lui, tout, petit extrait de l'opéra The Fairy Queen d'André Purcell dans l'enregistrement de William Christie avec ses arts florissants. The Fairy Queen dans cette piquante production dirigée par Paul Agnew et chorégraphiée par Mourad Merzouki, c'est à découvrir ce week-end à l'Opéra de Massy.
L'Or Maison sur Radio Classique.
Nous diffuserons ce dimanche à 20h un concert, ou plutôt des extraits de deux concerts donnés en décembre dernier à Monaco par l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo et son chef Kazuki Yamada. Kazuki Yamada qui poursuit sa 8e saison en tant que directeur musical de l'orchestre. Une saison largement placée sous le signe de la musique germanique avec Mahler, Bruckner ou encore Schubert et Beethoven qui figuraient au programme des concerts dont nous pourrons profiter dimanche. Avec également quelques touches de musique française que le chef affectionne tant. Alors, comment a-t-il pensé cette saison? Comment conçoit-il sa programmation? On écoute Kazuki Yamada.
I want to take the exact balance for taking the good condition for the orchestra.
J'ai envie de trouver le bon équilibre pour avoir les meilleures conditions pour l'orchestre. Nous essayons de jouer plein de genres de répertoire, en incluant notamment les chefs d'orchestre invités. Bien sûr, je suis un amateur de musique française et je l'ai toujours aimé. Par ailleurs, pendant le Covid, on ne pouvait pas jouer de grandes symphonies comme celle de Mahler et Bruckner. C'est pourquoi, maintenant qu'on peut, j'ai envie de montrer qu'il est de nouveau possible de jouer ce répertoire avec de grandes choses extraordinaires. C'est pourquoi, cette année, il y a pas mal de grandes symphonies. Mais ce répertoire est très distingué, jamais lourd. On a les ouvertures ou les concertos de Beethoven. Puis le Schubert numéro 5 est une plus petite symphonie, pas de timbales ni de trompettes. D'une certaine manière, on peut même se sentir détendu, une sorte de musique de chambre symphonique. Je trouve que c'est vraiment bien de mettre ce genre de répertoire dans la saison.
Avec des références à Mozart pour cette symphonie de Schubert.
Oui, c'est très proche. Bien sûr, un Schubert est un Schubert. Schubert est un spécialiste des leaders, un compositeur de chansons. Il aimait tant le chant. Pour moi, cette symphonie est aussi très proche de la voix humaine, comme un chœur ou un air d'opéra. Parfois, je le ressens comme ça, et c'est toujours très raffiné. Bien sûr, il y a beaucoup d'effets que l'on retrouve chez Mozart, et même Beethoven, mais cette symphonie est très raffinée, et je l'aime beaucoup.
Un petit extrait de la 5e symphonie de Schubert par l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo et Kazuki Yamada, capté en concert en décembre dernier à Monaco, concert que vous pourrez donc revivre dimanche à 20h sur Radio Classique. Kazuki Yamada, qui est également depuis cette saison le directeur artistique de l'Orchestre Symphonique de Birmingham, poursuit avec bonheur sa collaboration avec l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo au point d'avoir décidé de prolonger l'aventure puisque son mandat a été renouvelé. Il nous parle justement ce soir de ses liens et de ses perspectives avec son orchestre monégasque.
These 8 years is so... I was so happy...
Ces 8 dernières années, j'ai été heureux de voir une évolution à la fois pour l'orchestre et pour moi aussi. On a pu se perfectionner ensemble et j'en suis très content. L'atmosphère est super entre l'orchestre et moi. Et je n'ai pas fini mon travail ici, en un sens. C'est vrai que j'ai commencé ma fonction avec Birmingham et je suis un peu plus occupé maintenant. Mais j'ai envie de garder cette relation avec l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo. C'est pourquoi j'ai décidé de prolonger, et la princesse Caroline a accepté, et voilà.
Alors vous allez rester avec cet orchestre jusqu'en 2026? Vous avez un projet à long terme avec l'orchestre?
Of course, there always I was trying to...
Bien sûr, j'essaie toujours d'inviter de bons chefs d'orchestre et de bons solistes. Mais cette année est aussi très spéciale. Ici, cette saison, parce qu'on peut enfin aller ensemble au Japon. Cela avait été prévu pendant la période du Covid, mais c'était évidemment compliqué. Donc, ça a été repoussé. Et donc, cette année, on va aller au Japon. Cela va être très excitant. Et j'espère que cela arrivera une autre fois avant la fin de mon contrat, donc avant 2026. Pas forcément seulement au Japon, peut-être que nous pouvons aller dans un autre pays, en Asie par exemple. Nous faisons tant de belles choses, je peux le dire. Mais la prochaine étape, c'est que nous devons montrer ces belles choses. Par exemple, par le biais de Radio Classique, ou grâce à la télévision, ou avec Internet aujourd'hui. Maintenant, il faut que nous montrions de plus en plus nos activités pour pouvoir échanger avec d'autres cultures.
Et est-ce que vous allez renforcer les liens entre le Japon et Monte Carlo?
Yes. And then, kind of the special relationship.
Oui, et c'est une relation très spéciale. Monaco est un tout petit pays. Mais ce tout petit pays a un jardin japonais magnifique. Il est magnifique, mais pourquoi ce pays a un jardin japonais? Parce que la princesse Grace Kelly adorait le Japon. C'était son idée de créer le jardin japonais. C'est super. Il est aussi intéressant de noter que les drapeaux nationaux ont les mêmes couleurs, blanc et rouge. Le drapeau de Monaco est blanc et rouge, mais le japonais aussi, avec son cercle rouge sur un arrière-plan blanc. On peut sentir une atmosphère spéciale dans les deux pays. Je pense qu'on peut échanger encore plus entre ces deux cultures.
Alors, vous partagez maintenant votre temps en Europe entre Birmingham et Monte Carlo. Est-ce que votre emploi du temps est devenu très compliqué? Est-ce que vous avez des projets différents avec ces deux orchestres?
Yes, sometimes very different.
Oui, c'est différent. Et chaque orchestre devrait être indépendant. Mais parfois, on peut combiner les projets. L'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo invite le chœur CBSO, le chœur de Birmingham, assez fréquemment, en fait. Presque tous les ans, je pense. C'est une superbe relation, et bien sûr, nous pouvons continuer comme ça. Mais pas forcément qu'avec le chœur. Il faudra un jour que nous jouions tous ensemble. Je veux dire, avec les deux orchestres, de Birmingham et de Monte Carlo. Il faudrait que ce soit de grandes œuvres. Peut-être pas la numéro 8 de Mahler, mais quelque chose comme les Gourlieder. Pourquoi pas? Ce serait un très grand projet, très spécial, et en ce moment, j'y réfléchis.
Un extrait du Requiem de Forêt dans cet enregistrement dirigé par Kazuki Yamada, fruit de la collaboration entre Monte Carlo et le Japon, entre l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo et le Chœur Philharmonique de Tokyo, le Japon où Kazuki Yamada emmènera bientôt ses musiciens en tournée. Kazuki Yamada et l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo que nous retrouverons donc dimanche à 20h en concert dans des pages de Beethoven, Schubert et Gounod.
Le journal du classique sur Radio Classique.
Comme tous les ans, en janvier, autour du 27 janvier, jour anniversaire de Mozart, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo célèbre le compositeur autrichien le temps d'un festival dont la troisième édition se tient en ce moment et jusqu'au 4 février. Des concerts dédiés à Mozart et quelques-uns de ses contemporains, dont Haydn. Thomas Engelbrock et Ton Koopman sont invités ici à diriger l'orchestre à l'occasion de ce festival. Deux chefs venus du baroque qui ont beaucoup à apporter aux musiciens, surtout pour jouer Mozart, comme me l'a confié Didier de Cotigny, le délégué artistique de l'orchestre qui a concocté la programmation de ce festival.
Mozart est un compositeur qui est un peu à la charnière des compositeurs baroques et des compositeurs classiques. Il couvre ces deux périodes assez magnifiquement. Et aussi, la musique de Mozart est extrêmement raffinée, réclame une perfection sonore, une perfection d'ensemble. Et donc, si vous voulez, c'est pour moi très important. Et c'est aussi important d'avoir des chefs qui viennent de ce répertoire-là, comme Thomas Engelbrock, qui a été spécialisé là-dedans, ou Ton Koopman, qui était un grand spécialiste de Bach, Handel, et qui maintenant dirige tous les répertoires, mais et particulièrement le répertoire de la fin du 18e dans son ensemble, pratiquement, et le début du 19e jusqu'à Beethoven, et même plus loin maintenant. Et c'est vraiment très intéressant de les faire travailler avec un orchestre. Et ce répertoire est un répertoire qui est essentiel et qui, manifestement, tous les grands orchestres sont un peu délaissés parce que tous les orchestres baroques qui ont été créés les uns dans tous les endroits impossibles, imaginables, qui sont vraiment formidables, mais on ne peut pas leur laisser non plus le champ libre sur tout un répertoire, si vous voulez, qui était dans le temps un répertoire essentiel aux orchestres symphoniques. Maintenant, les orchestres symphoniques ont un peu peur de faire du Haydn, ont un peu peur de faire du Handel, de même du Bach, ou de faire du Mozart. Et bientôt, ça va être Beethoven qui va sortir de l'équation. Et il y a beaucoup d'orchestres qui, maintenant, ont réduit leur répertoire d'activité. Et je trouve ça très, très triste, parce qu'en fait, le répertoire classique de Haydn, Mozart, Beethoven, est essentiel pour la bonne santé sonore et musicale d'un grand orchestre symphonique. Si vous en faites beaucoup moins, au bout d'un moment, vous allez probablement expérimenter une dégradation de la qualité sonore de ces orchestres. Parce que ce répertoire-là oblige à s'écouter, à s'affiner, à avoir une intonation parfaite et tout ça, parce que vous ne pouvez pas vous cacher, vous êtes tout nu. Et donc, si vous voulez, dans un grand, une grande symphonie mahlérienne, bon, c'est peut-être moins évident quand les violons, tout d'un coup, sont moins, disons, spot on, comme on dit en anglais, sur l'intonation. Et tout ça parce que vous avez un volume sonore qui est tel que vous l'entendez moins, mais dans un adagio d'une symphonie de Haydn ou de Mozart, vous l'entendez tout de suite si les cordes ne sont pas au niveau sur le plan de la acuité sonore et de l'intonation. Donc, et c'est pour ça qu'il y a un autre élément de la musique que nous développons aussi ici beaucoup, c'est la musique de chambre avec les musiciens de l'orchestre qui font toute une série de concerts qu'on appelle les Happy Hours, et ça sert énormément à développer un certain esprit, une certaine manière de faire de la musique qui est extrêmement utile quand on se retrouve devant des œuvres du grand répertoire.
Thank you.
quelques musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo, la violoniste Lisa Kerob, l'altiste Federico Oud et le violoncelliste Thierry Amadi, en compagnie ici du pianiste David Bismuth, dans un extrait du premier quatuor avec piano de Mozart, un enregistrement sorti tout récemment chez Hamson. Alors les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo célèbrent Mozart en ce moment, en orchestre et en musique de chambre, avec également le violoniste Daniel Lozakovitch ou encore le pianiste David Frey, à l'occasion de ce festival Mozart qui se poursuit jusqu'au 4 février à l'Auditorium Régnier III. L'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo, qui accueille régulièrement les plus grands chefs de la planète, mais aussi la jeune génération, au point d'être devenu un véritable tremplin pour les grands chefs de demain. Il faut dire que Didier de Cotigny est toujours à l'affût de nouveaux talents, et quand il les repère, il sait leur donner leur chance, les révéler au public et les accompagner. Il nous raconte justement sa démarche.
C'est toujours important d'avoir un mix au sein d'une saison de l'orchestre, c'est-à-dire de profiter de l'enseignement des très grands, des anciens, comme Charles Dutoit, qui pour nous apporte énormément sur le plan du répertoire, ayant connu lui-même Stravinsky très très bien, ayant travaillé tous les grands ballets avec lui, et ça c'est un répertoire qui est important pour notre orchestre. C'est important d'avoir quelqu'un qui l'a entendu littéralement de la personne, et d'être là, et de montrer ça aux plus jeunes, et de montrer ça à l'orchestre. Et donc d'avoir des chefs d'orchestre d'âge moyen, et bien sûr d'avoir des chefs d'orchestre jeunes, et d'essayer de repérer les jeunes chefs pour avoir un mix, d'essayer de faire venir les jeunes est pour moi toujours un challenge et j'en cherche constamment. Là, cette année, par exemple, nous en avons eu plusieurs. Nous avons eu Liu Kuokman, qui est un chef chinois absolument fabuleux, qui est venu remplacer cette année quelqu'un qui était malade à la dernière minute et qui a ébloui tout le monde. Il y a aussi le jeune chef allemand Elias Grandi, qui était le plus jeune, qui a gagné le prix Scholti il y a à peu près une dizaine d'années, qui était le plus jeune chef d'orchestre en Allemagne à être nommé général musique directeur d'un théâtre en Allemagne, le théâtre de Heidelberg, l'opéra de Heidelberg, et qui nous a fait des tableaux d'une exposition absolument spectaculaire, et que l'orchestre a plébiscité. Ça a été une surprise absolue. Et nous avons aussi Tarmo Paltokowski, qui fait parler énormément de lui, qui viendra au printemps faire un concert autour de Mahler et de Berg. Nous avons aussi quelqu'un comme Andris Poga, qui revient à l'orchestre, et je suis ravi qu'il va venir ici avec accompagné Truls Mork au violoncelle, qui va nous donner le concerto de Shostakovich. Et ça aussi, c'est marrant d'avoir un très grand, c'est assez intéressant d'avoir un très grand soliste avec un jeune chef, parce qu'au moins, il y a une transmission aussi d'un certain savoir, et c'est vraiment formidable. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire constamment à l'Orchestre de Monte Carlo, c'est-à-dire, et puis aussi, les femmes chefs d'orchestre, pour nous, c'est important, mais je préfère en avoir moins que plus, et d'avoir vraiment des personnes avec qui ça marche magnifiquement. Et là, par exemple, on a eu cette année une expérience magnifique avec Nathalie Sussmann, qui était déjà venue diriger Tannhäuser, la version française de Tannhäuser, il y a quelques années. Cette année, on lui a trouvé, elle a ouvert la saison, littéralement, c'est elle qui a fait le premier concert de la saison, tout de suite après Kazuki Yamada. Et c'est vraiment, ça a été un très grand succès, et je suis ravi d'annoncer qu'elle va revenir régulièrement à l'orchestre, donc ça c'est formidable. Nous avons aussi Alondra Della Parra, qui va nous faire un magnifique concert autour de la Saint-Valentin, avec un programme entièrement nord et sud-américain, que nous jouerons d'ailleurs à Paris à la scène musicale, après l'avoir joué à Monaco, et elle va nous offrir un programme absolument hors du commun qui devrait intéresser beaucoup de gens.
quelques notes de Sensemaya du compositeur mexicain Silvestre Revueltas par l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo et Alondra de la Parra en concert le 7 mai de l'année dernière à l'Auditorium Régnier III de Monaco. Alondra de la Parra qui retrouvera ses musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo le 9 février à Monaco et le 11 février à la scène musicale autour d'un nouveau programme aux accents nord et sud-américains avec Bernstein, Gershwin ou encore Piazzolla. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Charlotte Toro-Lassalle pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie de la jeune pianiste Nour Ayadi. Mais tout de suite, je vous invite à prolonger cette soirée sur Radio Classique avec Francis Drezel.